Élisabeth Claude Jacquet est née en 1665. Fille d'organiste, issue de deux lignées de maçons, on dirait aujourd'hui d'entrepreneurs, et de faiseurs et de joueurs d'instruments, elle a tôt été mise devant un clavier, puisque dès l'âge de 5 ans, on la produisait en public. La petite Jacquet faisait tellement l'admiration de son public de la cour que la marquise de Montespan la retenait pour quelques années à Versailles. Le Parnasse français relate « Le roi éprouve un vif plaisir à l'entendre au clavecin, ce qui motiva Madame à la garder durant 3 ou 4 années pour se divertir de la manière la plus agréable et d'enchanter toutes les personnes de la cour lui rendant visite. Ce fut là une tâche dont la jeune demoiselle s'acquitta avec grand succès. » On louait alors la virtuosité d'instrumentiste d'Élisabeth, mais aussi ses capacités à déchiffrer la musique et à la chanter à première vue. Elle gardera toute sa vie un grand attachement pour Versailles et la famille royale. À l'âge de 19 ans, elle quitte la cour pour se marier. Se marier dans son cercle professionnel, comme ça se passait souvent, rappelez-vous les sœurs Caccini. Élisabeth épouse donc Marin de la Guerre, organiste, et lui aussi issu d'une famille de musiciens. C'est sans doute pour rendre hommage à ces deux familles qu'Élisabeth gardera les deux noms accolés, autant que pour perpétuer le souvenir de la petite Jacquet. Élisabeth Jacquet de la Guerre a déjà composé plusieurs œuvres, dont une pastorale et un ballet, et en 1687, à 22 ans, elle se décide à publier son premier livre de pièces pour le clavecin. C'est l'un des rares livres pour clavecin publiés en France au XVIIe siècle, avec ceux de Chambonnière, de Lebègue et de d'Anglebert. La particularité du recueil de Jacquet de la Guerre est d'offrir pour commencer chaque suite un prélude non mesuré, dans la tradition de ceux de Louis Couperin, comme celui que nous écoutions tout à l'heure. Et surtout, d'organiser les autres pièces de manière très stricte dans leur enchaînement, avec toujours allemande, deux courantes, gigue et menuet final. Catherine Sessac, dans son livre sur la compositrice, auquel je vous renvoie, cite à propos des pièces les plus personnelles du recueil les mots d'un bibliothécaire du roi de 1804, parlant d'un talent qui suppose une tête vraiment harmonique et au-dessus du temps où elle vivait. 1687, c'est aussi l'année de la mort de Lully, le moment où quelques compositeurs ont enfin la possibilité de se tourner vers l'opéra. En 1694, on donnait Céphale et Procris, premier opéra en France écrit par une femme dont nous écoutions à l'instant l'ouverture, et dans lequel on trouve toutes les péripéties en vogue dans la tragédie lyrique.
Grâce au Dieu, je suis au comble des malheurs. Le sort me fait toujours contraire. Je ne croyais pas au ciel que ta colère dû finir par ce coup, ma vie, mes douleurs.
Promenina la dinesse, aspirant à ton Christ, ta sort fulgente, profitant de cette faiblesse, qui t'a caché ton courage, c'est si bien aimé, vedremo, tremoso se niente. Che sorpresa, che sciacquando sorpresa, come io la diversa. Pagolò, pagolò, che non ho me, che non ho me. Cosa l'onda, sveglie, pure te, non ha notte, repare. Sei la mia re, dentro del mutare. Cosa l'onda, sveglie, pure te, non ha notte, repare.
L'opéra d'Elisabeth Jacquet de Laguerre, Céphale et Procris, n'obtint pas le succès escompté, ce qui était le cas de la plupart des opéras juste après la mort de Lully. Charpentier ou Colas eurent à en souffrir également. Et pendant plusieurs années, elle ne publia plus, souffrant également de nombreux deuils dans sa vie privée. D'abord ses deux parents, puis son fils de 10 ans, lui aussi enfant prodige sur le clavecin, et enfin son mari en 1704. À 39 ans, Jacquet de Laguerre se retrouve donc veuve. L'État qui offre le plus de liberté et d'indépendance dont une femme puisse jouir à cette époque. Elle tient salon chez elle, dans l'île Saint-Louis, où elle est née et où elle a toujours vécu. Elle donne des leçons, se fait entendre à la cour, se tient au courant de la musique qui se fait, en France ou en Italie, et elle compose. En 1707 paraissent ses pièces de clavecin qui peuvent se jouer sur le violon. Puis la même année, ce sont ses sonates pour le violon et pour le clavecin, dans lesquelles elle montre le goût italien que l'on trouve également dans d'autres recueils français parus après 1700, c'est-à-dire après la publication des sonates de Corelli. Thank you. tout à fait dans son temps, après ses sonates pour violon, Elisabeth Jacquet de Laguerre publie des cantates à voix seule. C'est un genre lui aussi venu d'Italie, mais adapté au goût et à la langue française et qui convient bien à cette fin de règne de Louis XIV où les Français veulent retrouver des divertissements plus intimes que la grandiose tragédie lyrique. Jacquet de Laguerre a composé deux volumes, un de cantates spirituelles sur des textes de la Bible et un de cantates profanes. Voici pour finir ce matin un extrait de L'île de Délos et intitulé Symphonie du Rossignol, dans lequel peu à peu Philomèle se transforme en rossignol. Écoutez les sons touchants de la tendre Philomèle, l'écho s'éveille à ses chants et les redit après elle. Ce matin, dans Histoire 2, je vous ai fait écouter des œuvres d'Elisabeth Jacquet de Laguerre, d'abord un prélude en ré mineur par Salvatore Carciolo, puis l'ouverture et un air de Céphale et Procris avec Raphaël Kennedy et l'ensemble Musica Fiorita dirigé par Daniela Dolci, un ensemble qui jouait aussi la sonate en sol mineur pour violon, hautbois, viol de gambe et basse continue, la sonate en ré mineur pour violon et basse continue, et à l'instant la cantate L'île de Délos chantée par Suzanne Ryden. Cette émission a été réalisée par Pierre-André Fautrier avec Éric Boisset et Françoise Monteil.